L'essentiel de l'info, c'est avec vous Simon Rubin.
Ne pas aujourd'hui être au rendez-vous de l'esprit de compromis, c'est prendre le risque de revenir dans des moments plus durs et qu'au final, cela nous coûte plus cher.
La nuit la plus longue pour l'Europe à Bruxelles, les 27 chefs d'État des pays membres de l'Union, dont Emmanuel Macron, tentent en ce moment de s'accorder sur un historique plan de relance pour faire face à la crise. Ils sont peut-être enfin sur le point de trouver un compromis. Le port du masque obligatoire dès aujourd'hui dans les lieux publics clos en France. Alors que la circulation du virus augmente, les autorités passent à la vitesse supérieure pour tenter d'endiguer une potentielle deuxième vague. Le reportage à Nantes.
C'est vrai, une contrainte, c'est pas agréable à porter, mais bon, il n'y a pas le choix. C'est histoire de dire on va pas le propager, on va pas l'attraper. On est obligé de le faire.
Et puis on écoutera le professeur Jean-François Delfrécy, un président du conseil scientifique, qui répondra à la question « Doit-on s'inquiéter d'une seconde vague ?» Dans ce journal, nous irons également à Bayonne pour les obsèques du chauffeur de bus tué sous les coups des voyageurs à qui il avait simplement demandé de mettre un masque. Les 80 km/h dans ce journal, il sauve des vies. C'est le bilan positif dressé par la nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière. Et puis, pas de dessert pour les fans de foot. Ils seront privés de ballon d'or en fin d'année. Enfin, la Bourse de Paris en légère hausse, le CAC 40 à 5093 points. Météo complète à la fin de ce journal, évidemment. Et puis, comme chaque soir cet été, hein, on va vous proposer une lecture avec Stéphane Place, qui nous invite ce soir à suivre Sylvain Tesson sur les traces de la Panthère des Neiges. Et puis, on va pourquoi pas trouver un peu d'inspiration avec La Bonne Idée de Thierry Dagiral.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'Europe plongée dans une attente fébrile pour faire face à la crise du coronavirus, crise sanitaire mais surtout crise économique. Les 27 pays membres de l'Union sont d'accord, il faut un plan de relance. Mais lequel ? C'est tout l'enjeu des négociations qui ont lieu depuis 4 jours et on vous retrouve depuis Bruxelles. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante, vous suivez pour Europe 1 ce sommet. Alors Isabelle, les dirigeants sont en train de dîner et ils ont sous les yeux bien sûr une assiette, mais aussi, plus important, un document, une sorte de protocole d'accord qui a des chances d'être validé par tout le monde.
Eh bien Simon, on ne va pas crier victoire trop vite, mais il semble bien que l'on s'en rapproche. Il y a ce soir un accord probable, selon un diplomate français. J'espère que ce sera le dernier épisode du feuilleton et que ce sera un épisode heureux, a ajouté cette source. Les dirigeants sont en ce moment même en train de discuter de ce compromis après une journée entière passée en réunion par petits groupes. Dans cette proposition, les subventions financées par l'emprunt commun, c'est le cœur du plan européen, se monte à 390 milliards d'euros. C'est moins que les 500 milliards qu'avaient proposé la France et l'Allemagne, mais c'est beaucoup plus que ceux que les pays réticents étaient prêts à accepter au départ. Les aides qui vont financer les plans de relance nationaux n'ont pas souffert de coupes pendant la journée. Donc si ce compromis est adopté, l'argent européen devrait donc bien financer un tiers du plan de relance français. On parle d'un montant entre 35 et 40 milliards d'euros. Voilà Simon, sauf nouveau rebondissement, et c'est vrai qu'à Bruxelles tout est toujours possible, on espère donc dans les minutes tous les heures qui viennent, une éventuelle fumée blanche.
Isabelle Horry, merci, qui suit les questions européennes à Bruxelles pour Europe 1. Ce soir, nouvelle montée en puissance de la mobilisation pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos. Depuis ce matin, il faut dire que les autorités redoutent une reprise des contaminations. Entre 400 et 500 foyers épidémiques en France, dans certaines régions, la circulation du virus est en augmentation. C'est le cas à Nantes, où on a comptabilisé près de 80 nouveaux cas en une semaine. Et visiblement, cette situation génère une vraie prise de conscience. Au-delà de l'obligation, voire du risque de l'amende à 135 euros pour non-port du masque, c'est ce que vous avez constaté, Johanna Chabas, dans l'un des grands centres commerciaux du centre-ville.
Oui, ici la règle est respectée par quasiment tout le monde, évidemment à cause de l'obligation, mais surtout par inquiétude. C'est le cas pour Patrice qui a peur des nouveaux cas dans le département.
Ça remonte quand même pas mal. C'est vrai que c'est une contrainte, c'est pas agréable à porter, mais bon, il n'y a pas le choix. C'est une des solutions. C'est histoire de dire on va pas le propager, on va pas l'attraper. On est obligé de le faire.
Dans les allées, des panneaux rappellent l'obligation. Des distributeurs automatiques vendent même des masques à l'entrée. Quelques clients n'ont pas encore l'habitude, mais sont très vite rappelés à l'ordre gentiment par la sécurité ou les vendeurs comme Armando.
Dès ce matin, mon premier client n'avait pas de masque. J'ai refusé de le servir parce qu'il n'avait pas de masque et qu'il devait en acheter un directement au niveau de l'escalator. Il a été en acheter un et du coup, j'ai pu le servir à ce moment-là.
Un réflexe à prendre donc, mais Vanessa, qui en porte depuis le début du déconfinement, se demande si l'obligation ne va pas encourager les Français à prendre l'habitude de porter un masque en toutes circonstances.
C'est des images qu'on connaît par exemple au Japon où tout le monde a des masques. Je me dis, est-ce que ça va devenir une nouvelle habitude? Est-ce qu'il y aura une mode? Si tout le monde joue le jeu, normalement on doit se protéger les uns les autres. Malheureusement, je pense qu'on en a pour un petit moment encore.
C'est en tout cas, selon elle, une nécessité pour combattre le coronavirus dans la région et surtout éviter tout reconfinement.
Alors doit-on s'inquiéter? Est-on en train d'assister au premier frémissement de ce qui pourrait être une deuxième vague? Cette question, Thierry Dagiral l'a posée à son invité dans le 18-20 tout à l'heure. Sans doute l'un des mieux placés pour répondre précisément. Il s'agit du professeur Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique.
Notre avenir est dans nos mains. On est dans un équilibre fragile, on le sent bien. On le voit bien aussi en Espagne, où ils ont été obligés de reconfiner certaines parties de Barcelone, en Allemagne, en Angleterre. Et il ne faut pas qu'on arrive là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver à avoir les mesures de distanciation sociale, le port du masque, l'utilisation des tests. Donc on ne peut pas tout attendre de l'État. L'État, c'est logique qu'il apporte les tests, qu'il apporte les masques, mais sur la stratégie de se faire tester et de s'isoler, c'est bien nous-mêmes et notre responsabilité citoyenne qui est en cause.
Est-ce qu'il est vrai que le gouvernement travaille en ce moment sur 4 scénarios de reconfinement avec des mesures progressives?
Le gouvernement travaille sur les différents scénarios qu'on lui avait d'ailleurs proposés au niveau du comité scientifique, et avec différentes zones, possibilités, qui pourrait être, je dirais, d'avoir des confinements partiels, c'est d'avoir des confinements un peu plus serrés au niveau d'une ville ou d'une micro-région. Voilà ce qui est envisagé.
Professeur Jean-François Delfrécy est le président du Conseil scientifique. L'application Stop Covid va devoir être modifiée, ordre de la CNIL. La Commission informatique et liberté, le gouvernement a désormais un mois pour revoir l'appli en question qui, d'après la CNIL, ne donne pas assez d'informations à ses utilisateurs. Et puis, un espoir dans cette lutte contre le virus. Aujourd'hui, 2 vaccins potentiels ont franchi un cap dans leur validation. 2 initiatives, l'une anglaise, l'autre chinoise. Les 2 vaccins ont produit sur de premiers groupes de patients une réponse immunitaire très positive. 2 essais cliniques qui vont se poursuivre avec des patients tests plus nombreux.
Le journal de la nuit sur Europe 1.
Émotion très forte cet après-midi à Bayonne pour les obsèques de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus tué sous les coups de voyageurs à qui il avait simplement demandé de porter un masque dans le véhicule au début du mois. La famille, dont les 3 filles du chauffeur, les proches, les collègues, même la ministre Marlène Schiappa en charge de la citoyenneté, mais aussi Jean-Jacques Herry, beaucoup d'anonymes étaient là pour témoigner de leur douleur et de leur compassion.
Oui, la foule a même dû suivre la cérémonie sur écran géant depuis l'extérieur. Le protocole sanitaire n'autorisait en effet que 200 personnes à prendre place dans l'église. Le prêtre qui officiait cet après-midi connaissait bien Philippe Monguillot. C'est lui qui avait marié le chauffeur de bus à Véronique il y a maintenant plus de 20 ans. Sa veuve vêtue de noir qui a d'ailleurs pris la parole difficilement tout à l'heure, tour à tour avec ses 3 filles.
Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Je voudrais dire une dernière chose. Pour les élus, pour les hautes autorités, plus jamais ça.
Devant Marlène Schiappa qui représentait le gouvernement, le message a été très applaudi par les nombreux chauffeurs de bus présents, collègues ou défunts. Jean-Jacques portait un t-shirt blanc avec l'inscription « Pour Philippe ».
Quelqu'un de jovial, quelqu'un d'agréable, de gentil et toujours le sourire. La cérémonie était à son image et il fallait qu'elle soit comme ça, avec les chants basques et tout. Il ne faut pas que cette violence continue, nous grignote petit à petit et puis non, plus jamais ça.
Plus jamais ça, des mots très forts sur lesquels Véronique Monguillot est revenue à la sortie de l'église après être allée saluer les chauffeurs de bus.
Plus jamais ça, ça concerne tout le monde et il faut vraiment, vraiment, mais vraiment du fond du cœur qu'on nous en stop, il faut arrêter ce massacre.
Une violence que personne n'arrivait encore à comprendre ici cet après-midi. Forcément, on va y penser quand on va retourner travailler, m'a confié un conducteur.
Jean-Jacques Herry depuis Bayonne. Et on l'apprend ce soir, accident meurtrier dans la Drôme sur l'A7. 5 enfants tués dans cet accident de voiture. Le Premier ministre Jean Castex réagit à l'instant sur Twitter. Mes pensées, dit-il, accompagnent les familles et les proches des victimes de l'accident. Outre les 5 enfants décédés, 4 personnes sont gravement blessés, des personnes de la même famille et qui étaient vraisemblablement dans le même véhicule, retrouvés en feu au bord de l'autoroute. Éric Dupond-Moretti a rappelé sa détermination à mener une lutte sans merci contre les violences faites aux femmes. Lors de son audition par la Commission des lois à l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux qui a présenté l'ensemble de ses engagements en tant que nouveau ministre de la Justice, Salomé Legrand.
Il s'est montré moins tonitruant que l'avocat dans les prétoires, un coup s'excusant d'être perdu dans ses petites fiches, un coup très franc, je cite « Ce n'est pas prêt sur ce sujet, j'ai beaucoup de travail, de remise à niveau à faire ». Mais au fil des questions, Éric Dupond-Moretti a esquissé son programme sur une ligne très « et en même temps ».
Je ne serai pas le garde des sceaux du laxisme, mais je ne serai pas non plus le garde des sceaux du tout répressif. Je n'ai pas de baguette magique, mais je ne veux pas de matraque non plus. Et si la répression était la solution, il y a des siècles que nous le saurions.
Le garde des Sceaux a évoqué plusieurs réformes, celle de la nomination des magistrats du parquet d'abord, mais qui nécessite une modification de la Constitution, des efforts sur l'accueil et la prise en charge des femmes victimes de violences dès l'hôpital, ou encore une attention particulière à la justice des mineurs pour, je cite, « faire quelque chose qui a de la gueule ».
C'est l'un des grands rituels du début du mois de septembre, une fête populaire et un grand rendez-vous politique, c'est la fête de l'UMA. Eh bien, cette année, le rendez-vous est donc annulé. Initialement prévu du 11 au 13 septembre prochain, comme chaque année, au parc de la Courneuve, au nord de Paris, la fête a été officiellement annulée en raison, évidemment, du risque sanitaire. Et pour le quotidien communiste L'Humanité, qui doit faire face, comme tant d'autres journaux, à une crise structurelle, cette annulation arrive, Élise Dangean, au pire moment.
Et oui, à peine la tête sortie de l'eau, voilà que l'Humanité perd l'une de ses plus importantes mannes financières. Manque à gagner estimé près d'1 million d'euros. Une somme colossale pour ce groupe qui, encore l'an dernier, était placé en redressement judiciaire. Pas question donc de prendre des risques. Sauf qu'il y a déjà des frais engagés, près de 500 000 euros. L'Humanité va donc lancer un bon de soutien de 25 euros, c'est le prix d'un ticket d'entrée, en échange d'une offre alternative à la traditionnelle fête de l'UMA. Ses contours sont encore un peu flous, mais il s'agira a priori d'initiatives culturelles retransmises sur une plateforme numérique. Le directeur de l'Humanité, Patrick Leyaric, appelle donc à la générosité des amis du journal.
Nous avons de toute façon une équipe permanente, donc ceci compte dans les dépenses du groupe L'Humanité. D'autre part, on avait engagé un certain nombre de projets qu'on a forcément payés et on va faire ces initiatives qui seront portées et mises à la disposition des gens à partir d'une plateforme numérique. Tout ceci a un certain coût.
Et donc cette initiative de bons de solidarité pourrait bien fonctionner. L'an dernier, quand le groupe était en pleine tourmente, une campagne de dons lui avait permis de récolter plus de 4 millions d'euros.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. La mesure des 80 km/h a permis de sauver des vies. C'est le bilan dressé aujourd'hui par la nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière, Marie Gauthier-Melleret, qui rappelle qu'on compte notamment 349 morts de moins sur les 20 derniers mois.
Durant les 20 mois d'expérimentation, ce sont 349 vies qui ont été épargnées. Le temps perdu, et effectivement il y a du temps perdu sur les trajets, mais ce temps perdu est minime, puisqu'en moyenne il s'agit d'une perte d'une seconde par kilomètre parcouru. Il arrive même, sur certains trajets, qu'on ait gagné du temps de trajet parce que les 80 km/h ont permis de fluidifier le trafic et que donc il y a eu un peu moins peut-être d'embouteillage. Ce qu'on constate, c'est que la tendance générale, c'est une tendance à une acceptabilité de plus en plus forte de la mesure par les Français. Ça nous invite à faire mieux encore à l'avenir, à respecter encore davantage les limitations de vitesse pour nous permettre de sauver encore davantage de vies.
La nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière, Marie Gauthier-Melleret. Passer des propositions à l'action, tel était le mot d'ordre de Jean Castex à Matignon, en recevant une délégation de 14 des 150 bénévoles de la Convention citoyenne pour le climat, dont 146 propositions sur les 149 formulées ont été jugées dignes d'être retenues par le président Macron lui-même. Alors, ça ne veut pas dire, Claudia Bertram, 146 lois à venir, mais cela veut dire, malgré tout, un grand projet de loi et des dispositions réglementaires.
Avec des annonces prévues dès la semaine prochaine en ce qui concerne certaines mesures réglementaires. Sans vraiment plus de précision, c'est ce qu'a annoncé Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui participait à cette première rencontre entre le Premier ministre et certains membres de la Convention. D'autres mesures feront quant à elles l'objet d'un projet de loi. Il doit être présenté à la fin de l'été, puis examiné au tout début de l'année prochaine. Et tout ça avec l'idée de ne pas dénaturer le travail de la Convention, ce qui ne veut pas dire que tout sera repris tel quel, prévient Barbara Pompili.
tout le but, c'est de faire en sorte que tout ce qu'ils ont eu envie de mettre sur la table trouve un débouché. Après, on l'a vu avec eux-mêmes, il y a certaines mesures qui doivent être précisées, qui doivent être parfois retravaillées un peu parce qu'en termes d'application, on peut avoir des difficultés concrètes.
Cette première rencontre a donc été l'occasion pour le Premier ministre de fixer un calendrier d'action, action à laquelle vont participer les membres de la Convention comme Grégoire Frati, le coprésident de l'association Les 150.
Le mandat des citoyens, ce ne sera pas de négocier sur nos mesures, ce sera de les présenter, les expliciter. C'est un peu un devoir de responsabilité qu'on a d'accompagner nos mesures parce qu'on ne veut pas qu'elles soient dévoyées, dénaturées, appropriées par certains et pas par d'autres.
Et la prochaine étape, c'est dans 9 jours, le 29 juillet, donc, pour enclencher ce travail de suivi.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Se dirige-t-on vers une intervention égyptienne dans le bourbier libyen? Le Parlement au Caire a en tout cas ce soir approuvé le principe de l'intervention de l'armée égyptienne dans la guerre qui oppose les rebelles de l'Est au pouvoir de Tripoli, la capitale libyenne. Mauvaise nouvelle pour les amoureux de football, il n'y aura pas de ballon d'or cette année. Covid oblige et c'est d'ailleurs la première fois que ça arrive depuis la création du trophée par France Football en 1956. Alors, difficile de juger qui aurait été le meilleur footballeur de l'année alors que les championnats ont été interrompus partout dans le monde, que l'Euro a été décalé à l'année prochaine. On va néanmoins s'interroger, Cyril de la Morinerie, au moment de l'apparition de l'épidémie, qui étaient les grands favoris?
Eh bien, cela aurait pu être l'année Benzema. L'attaquant de 32 ans est dans la forme de sa vie. Il a offert un 34e titre de champion d'Espagne au Real Madrid. Et surtout, il est impliqué dans la moitié des buts de son équipe. Comme Modric en 2018, Benzema aurait pu briser l'hégémonie de Messi et Ronaldo, qui ont remporté 11 ballons d'or à eux deux. L'Argentin, avec une saison mouvementée au Barça, perd du titre et entraîneur licencié en pleine saison. Quant à Cristiano Ronaldo, certes, il en est à 7 buts en 8 matchs, mais il doit encore qualifier son équipe en Ligue des Champions après la défaite à l'aller à Lyon en février dernier. Un autre buteur fait fureur, c'est Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a inscrit 51 buts en 43 apparitions avec le Bayern Munich. N'oublions pas non plus les joueurs de Liverpool qui ont mis fin à 30 ans d'attente en remportant le titre de champion d'Angleterre. Mohamed Salah, Sadio Mané, mais encore le défenseur des Reds, Virgil van Dijk. Enfin, coup de cœur pour Kevin De Bruyne, métronome de l'équipe de Manchester City, auteur de 13 buts et surtout 21 passes décisives.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Toujours en sport, les clubs français continuent d'intéresser les investisseurs étrangers en foot. Nice, Paris, Marseille, Bordeaux notamment ont été repris ces dernières années par des investisseurs étrangers. Et bien cette fois, c'est au tour de Toulouse qui passe sous pavillon américain. Le fonds de pension américain Redbird, spécialisé dans le sport, annonce avoir racheté 85% du club de Toulouse, pourtant rétrogradé en Ligue 2. Un dernier mot de la bourse de Paris, qui est en légère hausse ce soir, notamment dans l'attente d'une issue positive au sommet européen. Le CAC en hausse de 0,47% à 5093 points. C'est la fin de votre journal. On passe à la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
La météo avec vous, Laurent Cabrol.
Eh bien demain, ce sera une journée tout simplement ensoleillée hein, pour la plupart d'entre nous, on va dire sur les 9 dixièmes du territoire, avec des orages qui éclateront essentiellement sur les massifs montagneux en Franche-Comté, en Auvergne, en région Rhône-Alpes, dans les Cévennes, sur le Piémont pyrénéen, des régions où nous aurons des orages. Attention, ils ne seront pas très nombreux, mais ils seront parfois très violents. Et puis partout ailleurs, le soleil s'imposera. Un temps lourd, donc quelquefois nuageux sur l'Alsace, sur le Bourbonnais, le Limousin et sur les régions du sud-ouest. Les températures demain seront identiques à celles d'aujourd'hui. Elles ont été chaudes hein, aujourd'hui. Hein. Attention, demain il fera entre 26 et 36 degrés. 36 dans le Tarn, 26 à Biarritz, en passant par 28 à Paris et 31 à Dijon et Clermont-Ferrand.
La météo signée Laurent Cabrol.
Europe 1.
Dans un instant, un livre pour l'été avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30. Le journal de la nuit.
Europe 1 s'associe tout l'été avec la prestigieuse librairie Mola à Bordeaux et pour un troisième été de découverte et de conseils lecture. Un livre pour l'été ce soir, Stéphane Place. Eh bien, on va partir à l'aventure avec vous et surtout avec Sylvain Tesson, l'écrivain, grand voyageur qui est parti sur les traces de la panthère des neiges. C'est le titre de ce roman.
Lui qui tenait l'immobilité pour une répétition générale de la mort. Le voici en pleine montagne, à l'affût, sans bouger,
aux côtés du photographe animalier Vincent Munier. C'est à l'invitation de ce dernier que Sylvain Tesson part en Asie, dans le froid des montagnes du Tibet, et dans l'espoir, c'est le but de l'expédition, d'observer l'insaisissable panthère des neiges. Le titre du livre qui raconte cette aventure d'un écrivain grand voyageur dont Sixtine de Beaufort, libraire chez Mola, reste une inconditionnelle.
La Panthère des Neiges, c'est un roman de Sylvain Tesson qui s'ancre dans la lignée de ses précédents récits de voyage. Donc évidemment, Tesson, qui est toujours partant pour toutes les aventures, accepte, mais c'est une expérience très particulière pour lui, car il ne s'agit pas de vivre les choses à fond, dans la rapidité, comme il le fait à chaque fois. Là, c'est vraiment l'expérience d'un affût. En fait, cette Panthère des Neiges, ils vont l'attendre pendant des jours et des jours, sans savoir s'ils vont la voir un jour ou pas. Alors pendant ce temps, ils vont voir des choses magnifiques, ils vont voir des yaks, des faucons, il y a voilà, toutes sortes d'animaux rares. L'écriture très puissante de Sylvain Tesson qui, par ses métaphores, ses comparaisons, nous permet de nous représenter parfaitement l'univers dans lequel il est. Et aussi, toutes les références littéraires dont il émaille son récit. Ici, il fait beaucoup appel à la philosophie chinoise, qui a une sorte de mystique qui s'empare de nous. Quand on lit ce roman-là, on attend comme lui la Panthère des Neiges comme une divinité.
Et dès l'avant-propos, Sylvain Tesson reconnaît qu'il s'est interrogé. « Moi qui aimais courir les routes et les estrades, écrit-il, accepterais-je de passer des heures immobiles et silencieux ?» Pour lever le doute et avant de partir sur les traces de la Panthère des Neiges, le photographe Vincent Munier a testé en quelque sorte l'écrivain, comme il le raconte lui-même.
Il voyait bien que la seule chose qui m'intéressait, c'était d'offrir mon regard et mon observation au monde. Alors, un jour, il m'a proposé de venir le rejoindre au Tibet. Mais comme il n'était pas tout à fait sûr, parce qu'il n'est pas fou quand même, que je réussirais à rester tranquille pendant des heures dans un affût, il m'a proposé d'abord de commencer, de faire une sorte de répétition générale dans une forêt de la Moselle, tout de même moins exotique, en allant voir des blaireaux. Ensuite, évidemment, j'avais l'impression qu'il me proposait ensuite quelque chose qui était bien plus spectaculaire. Je suis entre une panthère dans la haute vallée du Mekong, au milieu du Tibet, et puis les bords de la Moselle avec des blaireaux, on a l'impression que, évidemment, on change de degré dans le médiatique, dans le spectaculaire et dans l'exotique.
De cette expérience, Tesson tire dans une langue magnifique des enseignements. L'affût commande de tenir son âme en haleine. L'exercice m'avait révélé un secret. On gagne toujours à augmenter les réglages de sa propre fréquence de réception.
La Panthère des Neiges, le roman de Sylvain Tesson. C'est la chronique de Stéphane Place avec la librairie Mola à Bordeaux, à retrouver tous les jours sur Europe 1. Et donc, rendez-vous pour une autre découverte littéraire demain, même heure. Autre rendez-vous estival sur Europe 1. C'est la bonne idée, tous les soirs, avec Thierry Dagiral, on tire un coup de chapeau, une initiative, on salue ceux et celles qui, après la crise, se mobilisent et innovent.
Bonsoir Fabrice Amédéo.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste au Figaro, navigateur, vous allez vous élancer le 8 novembre prochain des Sables d'Olonne pour un Vendée Globe un peu particulier pour vous, puisque vous allez récolter des microplastiques.
Oui, tout à fait. Alors, je suis plus journaliste au Figaro, j'ai quitté la rédaction il y a quelques années, mais je suis un ancien journaliste et je suis devenu coureur au large professionnel lors du dernier Vendée Globe en 2016. Et pour ce Vendée Globe qui s'élance le 8 novembre prochain, j'ai en effet équipé mon bateau, un 60 pieds Imoca, de deux capteurs. Il y a un capteur qui fait des mesures de CO2, salinité et température en surface pour la communauté scientifique. Et un deuxième capteur, celui que vous venez d'évoquer, qui filtre l'eau de mer et qui piège des microplastiques et qui donc va permettre de mesurer les niveaux de microplastiques sur le parcours du Vendée Globe pour toute une communauté scientifique qui nous suit avec beaucoup d'intérêt.
C'est ça Fabrice, c'est que derrière vous allez faire remonter l'information auprès des scientifiques pour voir la pollution de l'eau au large, en très grand large.
En fait, concrètement, j'ai trois filtres qui sont de tailles différentes en fait, dans mon capteur. Je dois changer toutes les 24 heures.
Ouais.
Ces filtres piègent les microplastiques.
Ouais.
Et donc, à l'arrivée du Vendée Globe, que j'espère faire en 80-85 jours, j'aurai une valise avec 80-85 séries de trois filtres que les scientifiques récupéreront, analyseront, et ça leur permettra de voir les niveaux de microplastiques et donc la pollution de nos océans sur le parcours du Vendée Globe, et qualifier aussi l'origine de ces microplastiques.
Ça veut dire que ça ne va pas véritablement aider votre performance pendant cette course, dites donc?
Non, ça ne va pas aider ma performance, ça va plutôt un petit peu m'embêter à certains moments, mais c'est quelque chose de très important qui me tient énormément à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus être marin et ne plus s'engager pour la préservation de nos océans.
Bien sûr.
Et donc, je suis très fier de faire ça sur le parcours du Vendée Globe. Et la communauté scientifique est très intéressée par notre course qui, en fait, dure 3 mois et qui, la différence des missions scientifiques qui sont souvent ponctuelles, océan par océan, va permettre de faire une sorte de radiographie de l'état de nos océans sur une période donnée.
Bravo, bravo, merci à vous Fabrice Amédéo, départ donc du Vendée Globe 2020, donc le 8 novembre prochain, merci.
La bonne idée, c'est tous les jours sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Dans un instant, on va jeter un œil sur les unes de la presse, mais d'abord, on va marquer une petite pause musicale avec François Henry et son titre qui est sorti cette année, Bombay Saphir. Et voici donc le moment de découvrir les unes de vos quotidiens de demain. Alors évidemment, ce qui va sans doute monopoliser une bonne partie de l'actualité demain, c'est le sommet européen, cet accord attendu sur un plan de relance. Mais forcément, l'accord n'étant pas encore arrivé, les unes, vous allez le voir, parlent de sujets très divers. Il y a aujourd'hui en France qui, bien met sa une et met en avant cet embouteillage test Covid, le grand embouteillage. On y voit une file d'hommes et de femmes masqués. Alors, c'est pas la route vers les vacances, vers le soleil, mais c'est la route eh bien, vers les tests, vers les laboratoires. On n'a jamais fait autant de tests. Pourquoi ? Eh bien, parce que les Français veulent partir l'esprit tranquille en vacances et notamment entre amis, préfèrent être sûrs de ne pas être un vecteur de la maladie. C'est donc une enquête à lire dans Aujourd'hui en France. Le Figaro qui met tout de même à la une l'image de Emmanuel Macron et Angela Merkel, les chefs d'État évidemment mobilisés à Bruxelles pour trouver un accord de relance. Et puis le journal qui s'inquiète également du Covid-19. Faut-il craindre un rebond de l'épidémie ? On le sait, entre 400 et 500 foyers épidémiques en France aujourd'hui. Et la circulation du virus qui repart à la hausse dans certaines régions. La vigilance donc qui est de mise. Ouest France est l'un des rares journaux à mettre l'Europe en une, justement, on en parlait. Un sommet interminable, 4 jours et pourquoi pas peut-être presque 4 nuits de sommet. C'est pas loin d'être un record. En attendant donc ce plan de relance qui pour l'instant coince les 27 États membres. On le rappelle, qui serait sur le point de trouver un accord. Ouest France fait le point donc sur la situation. Les Échos qui s'intéressent à l'été sans touristes. Le choc d'un été sans touristes avec cette tour Eiffel devant une pelouse verte et sans touristes surtout. La désaffection des visiteurs étrangers perdure dans la capitale. Hôtellerie, restauration, organisateurs de visites, grands magasins. Tous les secteurs sont touchés et les professionnels s'inquiètent déjà pour la rentrée et pour leurs chiffres d'affaires. Enfin, Libération avec une totalement à rebours de l'actualité la plus brûlante, mais une terrible. Ouïghour, génocide en cours, ça se passe en Chine. Et à la une de ce journal, il y a cette citation, ce témoignage terrible que je vous lis. J'ai croisé une policière qui transportait le cadavre d'une étudiante et elle m'a dit « on leur donne la pilule et il y a même des contraceptifs dans les repas ». Mais cette étudiante continuait à avoir ses règles et elle est morte d'une hémorragie, n'en parle jamais. C'est un génocide que l'on tait et c'est le choix de la une de Libération demain. Voilà pour l'essentiel des unes de vos journaux. Il est 22h30 sur Europe 1 et vous l'aurez compris, c'est l'heure de retrouver Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Simon.
Le 39-21, ça ne bouge pas, vous non plus. Et les auditeurs seront là, j'en suis sûr.
Exactement. Et on vous retrouve à 23h pour le Flash, Simon.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.